into a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you.
De la paix. Il est 7 heures. Le bulletin de 7 heures. Christelle Yesseau.
Soyez les bienvenus à cette édition. Bonjour à tous et à toutes. Premier sommet Italie-Afrique, l'immigration clandestine et le gisement pétrolier baleine au cœur des discussions entre le vice-président ivoirien et les autorités italiennes. À Boaké, plus d'un milliard investis en 3 mois par le conseil municipal pour l'amélioration des conditions de vie des populations, des détails au cours de cette édition. À l'international, la perspective d'un déploiement de militaires russes au Niger divise la junte. La revue des titres des journaux de ce matin sera l'affaire de Jean-Claude Comé et on refermera ce bulletin avec l'invité de la rédaction, Junior Cardin, a joint pour nous professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il s'est exprimé sur les enjeux du ballet diplomatique des grandes puissances en Afrique, notamment les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. Un entretien à suivre en fin d'édition. Au lendemain des travaux du premier sommet Italie-Afrique à Rome, le 29 janvier 2024, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Meïlé Temoko Kone, s'est entretenu mardi avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. L'immigration clandestine et le gisement pétrolier baleine étaient au cœur des discussions, le point de ces échanges avec Junior Cardin.
Les discussions avec Giorgia Meloni ont porté sur la question de l'immigration illégale des jeunes Africains vers l'Europe et le renforcement des liens de coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire dans le cadre du plan Mattei, le nouveau plan d'investissement et de partenariat stratégique proposé par l'Italie à l'Afrique et qui était au centre des travaux du premier sommet Italie-Afrique le lundi 29 janvier 2024 dans la capitale italienne. En ce qui concerne l'immigration clandestine, où la Côte d'Ivoire est souvent indexée comme étant le pays d'origine de la majorité des migrants illégaux vers l'Europe, le vice-président de la République, Temoko Meïlé Kone, a insisté une fois de plus sur la nécessité de lever l'équivoque et rétablir la vérité sur l'identité de ces derniers. Il a révélé que plus de 80% des jeunes clandestins se déclarant ivoiriens ne le sont pas en réalité. Toutefois, le vice-président de la République a rassuré la présidente du Conseil des ministres italien sur l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre ce fléau, notamment par le renforcement des contrôles aux frontières ivoiriennes. Quant au second volet de la rencontre, les échanges avec le président directeur général de la société société Eni. Ils ont tourné autour du développement du champ pétrolier baleine découvert au large des Côtes ivoiriennes et entré en production depuis août 2023. D'ici à fin 2024, la deuxième phase d'exploitation passera de 20 000 à 50 000 barils par jour et de 150 000 à 200 000 barils par jour à l'horizon 2027, suivi d'une hausse de la production du gaz naturel devant permettre de booster la production nationale d'électricité, a rassuré Claudio Descalzi.
Gestion de l'État. Nommé depuis le 16 octobre 2023, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a passé le cap des 100 jours en tant que chef du gouvernement. Le bilan de ses principales premières actions dans une analyse proposée par Jean-Claude Comé.
Nommé par le chef de l'État Alassane Ouattara le 16 octobre 2023, l'ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan s'est mis immédiatement à la tâche, et cela en se basant sur les priorités de sa feuille de route comme chef du gouvernement, à savoir la gestion de l'économie, la sécurité nationale et d'autres questions cruciales, notamment la réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire, un événement dont la réussite tient à cœur au président de la République qui, lors du premier conseil des ministres du gouvernement Mambé, avait rappelé que l'ancien ministre-gouverneur qui avait été ministre chargé des Jeux de la Francophonie avait permis en très peu de temps à la Côte d'Ivoire d'organiser avec un grand succès la 8e édition de ces Jeux. Afin donc de relever cet autre défi de l'organisation de la plus grande compétition africaine de football, Begré-Mombé, dans sa stratégie, a déterminé deux axes de travail qui sont de suivre en tant que ministre des Sports l'organisation pratique de la CAN en vérifiant dans les détails les niveaux d'avancement des infrastructures liées à cette compétition, mais aussi faire accélérer les chantiers qui permettront une meilleure mobilité dans les 5 villes abritant les matchs. Il est aussi à souligner que ces 100 jours de Robert Begré-Mombé interviennent en pleine Coupe d'Afrique des Nations, une messe du sport que de nombreux supporters venus de plusieurs pays veulent suivre, ce qui a causé les premiers moments des problèmes de billetterie, problème que le chef du gouvernement ivoirien avait promis de concert avec la Confédération africaine de football de régler en 48 heures, et depuis, les choses sont visiblement rentrées dans l'ordre, avec de plus en plus des stades remplis, et cela au grand bonheur des organisateurs qui laissent entendre que cette CAN en Côte d'Ivoire est en passe de devenir l'une des plus belles fêtes de football organisées sur le continent.
CAN 2023. Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire ont pris fin mardi. La plupart des équipes dites favorites ont été stoppées à cette étape de la compétition, ce qui donne pour les quarts de finale des affiches palpitantes à partir de demain vendredi, suivant à cet effet les analyses de César Yao depuis Bouaké, où aura lieu la rencontre Mali-Côte d'Ivoire samedi au stade de la Paix.
Après une phase de poule marquée par les éliminations précoces de l'Algérie, la deuxième de suite pour les Fenech, à ce stade de la compétition du Ghana et de la Tunisie, les huitièmes de finale ont d'ores et déjà été fatales aux deux finalistes de la CAN 2022. Au lendemain de la sortie de route de l'Égypte, battue par la RD Congo au bout d'une séance de tirs au but interminable, le Sénégal tenant du titre est aussi tombé haut. Les hommes de la Teranga ont abandonné lundi dernier leur couronne continentale, leur rugissement étouffé et anéanti par le barrissement effrayant d'un éléphant blessé. La Côte d'Ivoire mal en point et miraculée a déjoué les pronostics en éliminant les partenaires de Sadio Mané. Autant de contre-performances inattendues, le sel de toute la Coupe d'Afrique des Nations où le Maroc, premier demi-finaliste africain de l'histoire de la Coupe du Monde, il y a 13 mois seulement, au Qatar, s'est cassé les dents, brisé par de solides vrais garçons venus du pays de Nelson Mandela. Dès ce vendredi 2 février, quatre stades ivoiriens trembleront au rythme des quarts de finale. Nigeria-Angola, c'est Victor Osimhen face à la discipline Ticote des Antilopes Noires, Guinée-République démocratique du Congo, le duel d'équipes sans complexe. Personne ne les attendait là et pourtant ils y sont. Afrique du Sud, Cap-Vert, les sensations de la CAN. Peut-on parler de surprise pour le Cap-Vert? En 2024, ils ont toujours du mordant et ont les moyens de faire déjouer n'importe quel adversaire. Cependant, l'adversaire ne sera pas n'importe qui. Il s'agira de l'Afrique du Sud, tombeur du favori de la CAN, le Maroc, Mali, Côte d'Ivoire. C'est la fête des voisins. La Côte d'Ivoire ressuscitée de sa CAN à domicile. Après une timide victoire face à la Guinée-Bissau, les éléphants ont sombré, vous le savez, contre le Nigeria et surtout contre la Guinée équatoriale. Repêché parmi les meilleurs troisièmes et malgré un changement d'entraîneur, ils sont parvenus à faire tomber le champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Ressuscités, les Ivoiriens y croient à nouveau. Ils vont chicoter tous leurs adversaires, entend-on dire dans les coulisses. Son adversaire en quart de finale est bien évidemment son voisin, le Mali, éternel outsider à la CAN. Les Aigles, menés par leur sélectionneur Eric Tchel, mènent pour le moment une campagne convaincante. Ils sont invaincus et viennent de faire tomber un autre voisin, le Burkina Faso. Mali-Côte d'Ivoire, c'est ce samedi au stade La Paix de Boaké, où il y aura également le match du 12e homme dans les tribunes.
Voilà un tout autre sujet à présent. Sur la question du paiement des arriérés des fournisseurs de l'État, le gouvernement a donné des instructions pour le règlement de son dû. C'était au cours d'une conférence entre le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire et l'autorité politique. Le mardi 30 janvier dernier, le président du syndicat, Faustin Gré, espère que ce paiement sera effectif dans les plus brefs délais. Nous l'écoutons.
Et ce qui est ressorti de cette rencontre, le gouvernement est décidé à prendre en compte les préoccupations. Ils ont fait monter journée à la gestion des impôts, gestion des trésors, pour que ces deux structures aient des chaînes de travail avec les fournisseurs d'accord par le cadre du Sénat. Ensuite, il y a des cas d'effacement qui ont été remis à hauteur de 36 milliards de francs. Et il faut que nous voulons que ça soit pris, c'est pas tout ça pris à court terme, avant même la finale de la Coupe d'Afrique de 2024. Le représentant du gouvernement a donné l'instruction à la direction générale du Trésor pour le paiement des factures à court terme et la gestion des impôts. Donc, pour nous, en principe, le lundi ou mardi, il doit nous dire ce qui a été fait au niveau du Trésor, les paiements qui sont en échange des paiements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai qu'on leur donne, mais nous aussi, nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. Puisque ce que nous avons soumis, c'est à court terme. Et à longtemps, nous avons attendu. Beaucoup sont morts, il y a des familles qui sont disloquées, il y a des enfants qui sont déscolarisés, qui n'ont plus à l'école, il y a des malades, il y a des décès. Donc nous ne pouvons pas, Carmen, on ne peut pas attendre indéfiniment le gouvernement. Nous pensons que le gouvernement est assez mature, c'est ce que nous disons, assez mature pour respecter ses engagements vis-à-vis de Fonta Côte d'Ivoire dans un délai bref que nous souhaitons.
Vous venez d'entendre Faustin Gré, président du syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, SINAFECI. À présent, direction Boaké. Grâce au soutien financier de ses partenaires, le conseil municipal de la ville a investi en 3 mois un peu plus d'un milliard de francs en vue d'améliorer les conditions de vie des administrés. L'information a été portée aux populations par le maire Amadou Koné à l'occasion du forum économique et touristique Invest in Boaké qui s'est tenu du 25 au 26 janvier 2024. On en sait un peu plus avec Joseph Assali.
Reprofilage des rues en terre, travaux d'assainissement et de salubrité rendant la cité de plus en plus attractive, ravalement des façades des murs ornés désormais de figurines. Tel est le nouveau visage que présente depuis quelque temps la ville de Boaké. Toutes ces actions ont nécessité un important investissement, selon le maire de Boaké, Amadou Koné.
Nous avons entamé la transformation qualitative de Boaké. L'UEMOA a fait un don de plus de 600 millions de francs CFA à la commune de Boaké. Pour commencer le travail que vous voyez, je voudrais, en plus de l'UEMOA, remercier tous nos amis et tous nos partenaires qui se sont mobilisés, qui nous ont offert des équipements de salubrité, qui nous ont offert des équipements de sécurité que nous avons mis à la disposition de la police nationale et de la police municipale. Ce sont en 3 mois plus d'un milliard de francs CFA qui ont été investis sans prendre un sou dans les caisses de la mairie.
La population salue toutes les initiatives de développement entreprises par les autorités municipales.
La vie est propre, tout est propre.
Le maire Malou Koné a fait du bon boulot. Il faut que la population évite de jeter les ordures, il faut qu'ils arrêtent de ruiner dans les rues.
Outre des poubelles, des toilettes publiques sont en cours d'installation dans la ville de Boaké où le taux d'insécurité a sensiblement diminué selon des autorités policières. Dans cette dynamique, un commissariat de police sortira bientôt des terres au quartier Dar es Salaam grâce au conseil municipal. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
À l'international, au Niger, l'arrivée de nouveaux mercenaires russes crée des remous au Sahel. Le corps africain, qui remplace le groupe Wagner, a annoncé sur Telegram le 24 janvier dernier le déploiement d'un contingent d'une centaine d'hommes au Burkina. Le même jour, le journal russe Vedomosti a publié un article indiquant que ce corps africain serait renforcé de 200 hommes et que d'ici l'été, il serait en mesure d'opérer dans 5 pays, à savoir la République centrafricaine, la Libye, le Mali, le Burkina et le Niger. Une perspective qui, à Niamey, ne semble pas faire consensus. Moussa Barmou, officier, s'est dit violemment opposé à l'option russe. Et c'est maintenant l'heure de la revue des titres de la presse ivoirienne. Et c'est avec Jean-Claude Comé qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Le Sénat ivoirien, on en parle ce matin dans la presse, puisqu'il y a eu hier l'ouverture de la première session ordinaire 2024 de cette institution parlementaire. Et à cette occasion, comme l'écrit Soir Info, Kandia Camara, la présidente, a dévoilé les priorités 2024 de la Chambre haute du Parlement. Le matin indique que selon Kandia Camara, ce sont 6 projets de loi, dont le code électoral et également le code de la nationalité, qui seront examinés. Fatinté Matin, dans cette lancée, relève quelques chantiers prioritaires de l'année 2024 du Sénat, à savoir la décentralisation, la diplomatie et la diaspora. Parlant notamment de décentralisation, le Nouveau Réveil rapporte que les sénateurs ne seraient pas satisfaits de la politique actuelle. Le rassemblement qui a suivi cette rentrée solennelle de la Chambre haute du Parlement souligne que le Sénat lance un appel patriotique aux Ivoiriens en invitant, précise l'essor, à la mobilisation autour des éléphants dans cette CAN 2023. Il nous reste plus que 3 matchs galvanisent Kandia Camara en une de l'Intelligence d'Abidjan. La CAN, c'est chez nous. Et le trophée doit rester chez nous. Ce sont aussi les propos de Kandia Camara que relaie le Jour Plus. Le matin, à propos de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire, déclare que la Côte d'Ivoire a gagné la CAN de l'hospitalité quand le patriote décrète que c'est la meilleure CAN de l'histoire. Et pour lui, la planète foot est déjà d'accord avec le président Alassane Ouattara. Cette CAN sera plus belle si elle est remportée par les éléphants. Et c'est pourquoi l'avenir fait un focus sur l'entraîneur Faye-Emers en présentant les clés nécessaires pour réussir avec les éléphants dans cette compétition. Le baromètre suggère quelques réglages que doit faire donc Faye-Emers, l'entraîneur, avant le match Côte d'Ivoire-Mali. Le rassemblement demande lui de laisser travailler le nouvel entraîneur Faye-Emers. Et puis il était aussi question de l'avis des partis politiques, notamment du PDC-RDA, avec cette information du Nouveau Réveil qui annonce que 34 mouvements et associations adhèrent à la vision de Tidiane Thiam, quand la voix originale nous apprend que pour la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le PPACI veut relever le défi depuis Abouville. Voici pour l'essentiel de l'actualité relayée par la presse.
Merci à vous Jean-Claude Comé pour cette revue des titres de la presse que l'on pourra retrouver dans l'édition de 8h. Dernier point fort de cette édition, l'invité de la rédaction. Professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, est l'invité de ce jour. Il s'est exprimé sur les enjeux du balai diplomatique des grandes puissances en Afrique, notamment les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. Professeur Bamba Abdoulaye a répondu à cet effet aux questions de Junior Cardin.
Professeur Bamba, bonjour.
Bonjour.
Professeur, on constate depuis un certain temps un balai diplomatique de certaines puissances en Afrique, notamment les États-Unis, la Chine et la Russie. Et selon vous, qu'est-ce qui fait courir ces puissances?
Je dirais d'abord que c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que quand une femme est beaucoup convoitée, c'est qu'elle a forcément des qualités. Donc ce balai diplomatique, ça montre que l'état de santé économique, politique, le balai diplomatique de l'Afrique, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer de ce balai diplomatique. Maintenant, pris individuellement au niveau des visites, il y a eu la visite du ministre des Affaires étrangères de la Chine, qui ensuite le secrétaire d'État américain, également la Russie qui l'ont pris individuellement. Chaque visite présente un intérêt particulier. En 2024, il y a le sommet Chine-Afrique qui se dessine à l'horizon. Et le ministre des Affaires étrangères de la Chine est donc passé pour consolider les acquis du sommet précédent et rassurer les autorités de leur volonté d'approfondir les relations. Et n'oubliez pas que depuis bientôt 5 ans, la Chine est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Et donc cette visite vient davantage renforcer l'état des relations entre les deux pays. Pour ce qui concerne les États-Unis, la coopération des États-Unis au-delà de l'aspect économique, il y a un volet sécuritaire avec les voisins ivoiriens qui ont à leur tête des militaires et qui ont une menace djihadiste. À ce niveau également, il y a deux aspects qu'il faut retenir. La menace djihadiste et le rapprochement de ce pays vers la Russie qui constitue une source d'inquiétude également pour les États-Unis. Pour ce qui concerne la menace djihadiste, vous savez que la Côte d'Ivoire et les États-Unis ont depuis quelques années renforcé leur coopération dans la lutte antiterroriste. Les deux pays ont développé ce qu'on appelle une police de proximité qui concerne la partie du 17e et 18e parallèle en Côte d'Ivoire. Vous avez également l'école antiterroriste à laquelle les États-Unis participent beaucoup. Et donc, les États-Unis viennent rassurer la Côte d'Ivoire de leur volonté d'aider le pays à toujours continuer de lutter contre le terrorisme. Et dernier point pour les États-Unis, c'est l'aspect politique. La Russie s'est rapprochée du Mali, la Russie s'est rapprochée du Burkina Faso et du Niger. Naturellement, cela n'est pas de bon augure pour les États-Unis, qui veulent donc s'assurer que les pays côtiers, qui sont dans le viseur des terroristes, qui sont dans le viseur également de la Russie, s'assurer que ces pays-là préservent toujours leurs relations avec l'Occident, notamment les États-Unis et la France.
Mais professeur, quand on voit un peu la concurrence qui règne entre ces puissances, est-ce que leur balai diplomatique sur l'Afrique, on ne peut pas parler de bataille de positionnement de ces puissances?
Absolument. Une bataille de positionnement est un élément essentiel dans les relations internationales. Les grandes puissances veulent toujours rester puissantes et donc elles cherchent à consolider leur zone d'influence. Et il appartient maintenant à ce qu'on appelle les petits pays, de chercher à savoir où se trouvent réellement leurs intérêts. Et c'est en cela que je parlerai toujours de la responsabilité des États africains vis-à-vis de ce flux et de ce balai diplomatique de grande puissance.
Mais au vu de toutes ces velléités de séduction, est-ce qu'on peut parler également de la fin de l'hégémonie de certaines puissances coloniales en Afrique?
Oui, je vous ai pris tout à l'heure le cas de la Côte d'Ivoire avec la Chine, qui est depuis bientôt 5 ans le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Avant, c'était la France. Ça ne veut pas dire pour autant que l'influence française en Côte d'Ivoire a disparu, mais l'influence économique, l'influence commerciale a beaucoup diminué. Ensuite, même si la France et les États-Unis sont le bloc occidental, il y a que chaque puissance a ses intérêts personnels. Donc, perte d'hégémonie, c'est possible, mais je dirais que c'est dans la logique des choses au niveau des relations internationales où chaque puissance veut affirmer sa présence, veut développer une diplomatie économique pour être plus présente, tant sur le plan géographique que sur le plan stratégique.
Mais toutes ces présences en Afrique, de ces puissances, l'Afrique ne doit-elle pas prendre certaines dispositions pour contrôler cette vague?
Oui, c'est pour ça que tantôt je vous parlais de la responsabilisation des dirigeants africains. Vous ne pouvez pas empêcher cette balai diplomatique. Vous avez au moins la possibilité de savoir où se situent vos intérêts. Et donc les visites, les rencontres vont être l'occasion pour insister sur l'intérêt des peuples africains et veiller surtout à ce que ces intérêts soient préservés à tous les niveaux. C'est en cela que se trouve la responsabilité des États africains. Et il appartient donc aux dirigeants de pouvoir tirer des dividendes assez intéressants et tous ces balais diplomatiques.
D'accord. Mais professeur Bamba, au-delà de toutes ces formes de partenariat, est-ce que nos États africains, nos dirigeants, ne devraient pas se battre pour notre indépendance technologique qui pourrait être la base de tout développement?
Qui pourrait être l'une des bases. Et en cela, j'ai toujours réfuté le concept de transfert de technologie parce que j'estime qu'aucune puissance n'y va volontairement transférer cette technologie à un autre pays. Moi, j'ai plutôt parlé d'appropriation de la technologie. Pour qu'on puisse être indépendant demain, il faut pouvoir transformer nos matières premières, il faut pouvoir inventer, créer d'autres choses que les autres n'ont pas encore créées. Et donc, oui, je suis d'accord avec vous sur le plan technologique, mais cela passe par la formation de la jeunesse.
Vous avez de l'espoir en voyant les choses évoluer de cette façon?
Mais écoutez, en tant qu'historien et spécialiste des relations internationales, vous savez que vous paraissez dans un pessimisme béat, tout est dynamique. Les choses peuvent parfois évoluer lentement, mais les choses évoluent toujours. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le continent africain.
Professeur Bamba, merci beaucoup.
Merci à vous et bonne journée.
C'était professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui intervenait sur le balai diplomatique des grandes puissances en Afrique. Et voilà qui met donc fin à cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Premier sommet Italie-Afrique, l'immigration clandestine et le gisement pétrolier baleine au cœur des discussions entre le vice-président ivoirien et les autorités italiennes. À Boaké, plus d'un milliard investi en 3 mois par le conseil municipal pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et à l'international, la perspective d'un déploiement de militaires russes au Niger divise la junte. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h pour un autre rendez-vous d'actualité.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.